mondialisation, inflation, délocalisation, spéculation, individualisme, profit. Marre d'une économie qui mène à la crise. Économie sociale et solidaire, démocratie, coopération, engagement, partage, proximité, pérennité.
Le mois de l'économie sociale et solidaire, c'est en novembre. Faites votre programme sur www.lemois-ess.org. Social et solidaire, l'économie qui sait où elle va.
Informer sur une économie qui a du sens et qui sait où elle va, l'économie sociale et solidaire, c'est l'objectif de ce mois de novembre qui lui est consacré. L'environnement et le fonctionnement des entreprises changent. Quels sont les enjeux de ces mutations ? Président, administrateur, responsable des ressources humaines étaient amenés à débattre sur ce sujet le 5 novembre dernier au Palais des Congrès et de la Culture du Mans lors du 5e colloque des employeurs de l'économie sociale, les enjeux de la gouvernance, quelles évolutions des parcours professionnels, quelle prévention des risques psychosociaux étaient les thèmes proposés aux participants. Les employeurs de l'économie sociale se fédèrent pour ensemble arriver à une réelle reconnaissance du monde économique et des pouvoirs publics. Retour sur ce 5e colloque des employeurs de l'économie sociale.
Voilà, il est l'heure de faire le bilan de ce colloque consacré à l'économie sociale et solidaire. Et nous sommes en compagnie de Robert Baron, qui est président d'Uniformation, Philippe Chevelier, donc élu prud'homal, mais aussi vice-président du comité régional olympique et sportif, et Nicolas Spire, sociologue, expert santé et travail. Alors, plusieurs ateliers se sont déroulés au cours de cet après-midi. Et Nathalie, on va commencer avec l'atelier consacré aux risques psychosociaux.
Voilà, un des thèmes de ces trois ateliers d'après-midi était basé sur la prévention de ces risques psychosociaux. Est intervenu lors de cet atelier, Nicolas Spire. Juste avant d'évoquer la prévention, est-ce qu'on peut rappeler ce que sont les risques psychosociaux ?
L'expression risque psychosociaux est une expression qui est peut-être un peu difficile à cerner, sans doute insatisfaisante par son caractère par trop général. En gros, ce que dit l'expression risque psychosociaux, il s'agit de risques professionnels, parce que c'est ça dont on parle, donc de choses qui sont quand même liées à ce qui se déroule dans le monde du travail, et qu'on appelle psychosociaux parce que, pour le dire vite, ils sont censément psychologiques du point de vue des atteintes potentielles qui touchent les salariés, et sociaux au sens où les facteurs déterminants qui les expliquent ou qui permettent de les expliquer ont trait à des facteurs qu'on va appeler sociologiques, c'est-à-dire qui ont trait aux modalités de la vie collective dans l'entreprise, c'est-à-dire pour l'essentiel à l'organisation du travail.
Alors, l'économie sociale et solidaire, ce secteur n'est pas exempt des risques de psychosociaux, tout comme n'importe quelle entreprise.
Alors non, bien sûr. On dit parfois ou on peut penser que depuis 1, 2, voire 3 ans que ces risques, disons, ont fait leur apparition sur la place publique pour avoir affaire à un effet de mode. En fait, il n'en est rien. Enfin, il y a sans doute des effets de mode du point de vue des modalités par lesquelles les médias s'emparent de ces questions. Mais en ce qui concerne les risques professionnels, on a dans ces métiers-là le même type de facteurs de risque que ceux qui se jouent dans d'autres secteurs de l'économie, qui jouent évidemment pas de la même manière, mais qui, même au sein de l'économie sociale, selon les métiers, selon qu'on a affaire à des managers ou à des encadrants, ou par exemple à des personnels médicaux, ou, je sais pas, des infirmières ou des aides-soignantes, ou encore des auxiliaires de vie, à des risques qui sont tout à fait avérés, et qui, évidemment, selon les situations, il appartient aux employeurs notamment, à nous éventuellement en tant qu'intervenants extérieurs parfois, d'identifier et de s'efforcer de prévenir.
Alors, on va parler quand même du point positif. Il y a des attraits aussi pour ce travail, ces salariés. J'ai noté qu'il y avait comme attrait l'utilité sociale, l'adhésion à un vrai projet. Et en termes de risques, est-ce qu'il y en a qui sont propres à ce secteur de l'économie sociale ? Je pense par exemple au manque peut-être de prévisibilité d'année en année en ce qui concerne les financements, les budgets, et que finalement, si on prend un exemple d'un salarié en CDI, on a vu une des préoccupations d'ailleurs d'après le baromètre social, les salariés citent l'avenir et la perspective.
Alors, ça fait partie des choses vers lesquelles, entre guillemets, on va regarder. Ce sur quoi j'ai essayé d'insister aussi dans l'intervention que j'ai faite, c'est aussi le fait que si on veut identifier des risques, évidemment, les situations ne sont pas superposables et difficile de d'émettre des généralités. Voilà, néanmoins, on sait qu'il y a des grands facteurs de risque vers lesquels il appartient ou il paraît utile de regarder. Celui des inquiétudes relatives à l'avenir en est un. Ça se décline selon diverses modalités. Ça peut être les inquiétudes liées à l'avenir au sein de l'entreprise, parce que on est des fois dans des métiers qui sont des métiers certes à vocation, où les gens entrent en début de vie professionnelle et puis ils s'installent dans le métier. Souvent ils s'attachent à une association, à une structure, ils y restent 5, 10, 15, 20, parfois 30 ans, sans toujours prévoir en amont pour eux, ni même au sein de l'association ou de la structure, de perspectives professionnelles claires. Tout le monde n'a pas envie de devenir directeur d'association quand on a une vocation comme éducateur spécialisé par exemple, ou comme auxiliaire de vie. Voilà, les perspectives de changement ou de dans la vie professionnelle sont délicates. L'autre dimension qui est peut-être moins souvent citée, c'est alors qui touche autant, disons, aux salariés qu'aux encadrants ou même aux dirigeants de l'économie sociale, c'est le fait que, par exemple, dans le secteur associatif, on a affaire à des structures qui sont de plus en plus précaires au sens économique du terme. Voilà, les sources de financement se raréfient, c'est un secret pour personne, c'est pas ma spécialité, mais enfin voilà, donc les diverses interventions qu'on a pu faire, c'est toujours une question qui revient sur la table. Et évidemment, pour les salariés, encore une fois, quel qu'ils soient ou quelle que soit leur position dans la structure, voilà, c'est un facteur d'incertitude, donc d'inquiétude, qui va jouer et sur lequel voilà, il est possible de trouver ou de voir se loger des facteurs de risque.
On a parlé aussi beaucoup de implication émotionnelle aussi, une implication personnelle des salariés dans ce travail, dans ces emplois.
Oui, le fait d'avoir des métiers qui, disons, la question du sens du travail ou de l'utilité sociale est importante, c'est sans doute quelque chose qui est à double tranchant. Alors, évidemment, moi, je n'ose pas dire mon fonds de commerce, mais les modalités ou les motivations de nos interventions font que on voit toujours les choses qui vont pas bien, mais la question du sens du travail est une question cruciale, en fait, pour tous les métiers, pour toute personne qui est amenée à travailler, hein. Et donc, dans ces questions-là, c'est évidemment des fois des choses qui sont motrices, qui sont facteurs de développement, qui sont facteurs d'épanouissement dans la vie professionnelle. Et puis, quand par hasard, cette question du sens au travail se trouve un peu contrainte, empêchée, rendue plus difficile, qu'on a un sentiment d'usure, un sentiment d'inefficacité, ou de manque de suivi dans son métier, dans son travail, pour des raisons qui peuvent être inhérentes au métier proprement dit, quand on touche à des réalités sociales qui sont difficiles, donc pour lesquelles on peut avoir l'impression qu'elles reculent ou qu'on les fait avancer, enfin, etc. Et ces questions peuvent devenir lourdes et pénibles à vivre. Alors il n'y a pas là de facteur dramatique ou irrémédiable, mais plutôt des questions qu'il faut essayer de soulever si possible collectivement, le plus possible collectivement, parce que sans dramatiser la chose, on sait à peu près clairement que quand ces questions-là font l'objet d'échanges et de va-et-vient ou d'aller-retour régulier, non seulement entre les salariés, mais aussi entre les salariés et leur hiérarchie, entre les salariés et leur direction, chacun est gagné et tous peuvent par là élaborer des pistes ou des moyens de rendre les choses plus plaisantes au moins.
Alors, quand on a conscience que ces risques psychosociaux peuvent exister, quels sont les moyens de les prévenir, justement ? C'était le thème de cet atelier, la prévention des risques psychosociaux.
Alors, il n'y a pas de solution miracle. Les risques psychosociaux sont complexes, ils sont pluriels. On a essayé d'expliquer que, à la différence d'un risque chimique pour lequel facile d'identifier un danger, un produit, il est plus ou moins facile de s'en protéger en général. Quand on a des risques psychosociaux, on a en général des facteurs de risque qui sont variés, qui interviennent de manière, je le disais, donc plurifactorielle. Les pistes de prévention sont, disons, aussi riches et diverses que ces facteurs existent. L'une des choses sur lesquelles on a essayé d'insister là, c'est que les pistes de prévention, elle se trouve dans le retour ou dans le dialogue avec les salariés, soit sous forme de groupes de travail très concrets, parce que en tant qu'employeur, en tant que dirigeant d'associations ou structures, on n'a pas toujours une vision très claire, très, disons, très adéquate de ce qu'est la réalité du travail, de ce que sont les difficultés réelles. Il n'y a pas là ni de ma part, ni d'aucune sorte, de manière de condamner qui que ce soit. C'est simplement qu'on n'a pas de connaissance a priori de ce que sont les réalités du travail. Nous, quand on intervient dans une entreprise ou dans un établissement, dans une structure, on a coutume de dire que les experts des situations de travail, ce sont les gens qui les vivent. Et donc, appréhender les risques psychosociaux, ça suppose de se tourner vers les salariés. Alors, sous la forme de groupes de travail, je le disais, par l'intermédiaire des institutions représentatives du personnel, quand elles existent, quand on le peut, quand on parvient à les faire fonctionner sereinement, pour essayer de comprendre ce qui dysfonctionne dans le travail et sur quelle piste paraît utile de travailler. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire faire parler les gens entre eux et qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qui paraît crucial? Dans les différents facteurs de risque, il y a ces questions de sens au travail, les questions de qualité du travail, les questions de valeur dans le travail, les questions de collectif de travail. Hein, il est crucial pour un salarié de pouvoir échanger avec des collègues, de pouvoir partager avec un groupe ou un collectif de travail des modalités de réalisation de son activité, de pouvoir échanger sereinement avec sa hiérarchie. Quand on interroge les facteurs de risque, il est souvent utile d'aller voir comment le travail est contrôlé, encadré, évalué. Ça veut pas dire qu'il faut pas évaluer le travail, au contraire, hein, mais plutôt que voilà, s'efforcer de faire que les modalités d'évaluation ou de contrôle du travail soient le plus en accord ou le plus à même de permettre aux salariés de s'y retrouver en quelque sorte. Et quand je dis aux salariés, c'est aux salariés au pluriel.
Pour l'intérêt du salarié, pour l'intérêt de l'employeur et pour l'intérêt de la structure en général. Avec ce dialogue autour qui est important et qui est au centre de tout. D'ailleurs, ça va aussi avec l'économie sociale et solidaire. Le principe, c'est quand même de replacer l'homme au centre et le dialogue. La communication.
De notre point de vue, on trouve vraiment, sans pas faire d'excès de diplomatie ou autre, mais du point de vue des employeurs de l'économie sociale, on trouve toujours des interlocuteurs qui sont très ouverts. On n'a pas vocation à venir pénaliser ou condamner qui que ce soit, mais on essaye aussi, on s'efforce aussi de dire aux employeurs que, et c'est des choses qu'on a dites lors de l'atelier, hein, que pour ce qui est des risques psychosociaux, par exemple, le premier symptôme en général, c'est que, alors dans le monde industriel, c'est la productivité. Dans l'économie sociale, c'est la qualité du travail. Quand les gens vont pas bien au travail, ils travaillent moins bien. Et ça s'en ressent et on le retrouve. Et du coup, la qualité du service s'en ressent. Et tout le monde a donc à gagner à travailler ces questions et à s'efforcer de les prévenir un peu mieux.
Merci, Monsieur Spuir. Une dernière question, ce qui va permettre d'enchaîner aussi avec nos autres invités. Est-ce que vous pouvez comprendre aussi les craintes que les employeurs peuvent avoir avec toutes ces responsabilités qui leur incombent quand on leur parle aussi? Attention aux risques psychosociaux qui peuvent naître dans votre structure, dans votre entreprise.
Oui, alors l'atelier a évoqué ces questions, il faut pas du tout les sous-estimer. On peut toujours avoir des salariés qui vont instrumentaliser individuellement ou même collectivement, pourquoi pas, des situations qui vont conduire à dire que l'employeur fait toujours mal. J'ai assez clairement conscience de toutes les responsabilités qui pèsent. Il faut dire, en relativisant les choses aussi, que une procédure en cours, par exemple, pour le président de France Télécom ou l'ancien président de France Télécom, on n'a pas encore mis en prison des employeurs pour avoir exposé indûment des salariés à des risques psychosociaux, et qu'il faut essayer de se sortir de cette logique peut-être pénale qui conduit à vouloir absolument condamner les uns ou les autres, et que nous, ce qu'on essaye de favoriser en matière de prévention, il n'y a que ça qui marche, quelles que soient les situations, c'est de mettre un peu tout le monde autour de la table, interlocuteurs extérieurs, ça commence par le médecin du travail par exemple, l'inspecteur du travail pourquoi pas, parce qu'il peut avoir un éclairage utile, représentant du personnel ou représentant de salariés, et bien sûr employeurs, dirigeants, encadrants, parce que les encadrants de proximité ont aussi des choses à dire qui sont pas tout à fait forcément les mêmes points de vue que les uns ou les autres. Et plus on a de points de vue autour d'une table, et plus on arrive à faire avancer les questions de prévention.
Hey, ça va ?
Ouais, ça va, ouais. Je sors du bureau de la conseillère d'orientation.
Ah ouais ? Et tu sais ce que tu veux faire ?
Je veux m'investir dans un taf qui a du sens. Mon avenir, je l'envisage avec des vitamines, pas des pesticides. Un concept genre éco comme économie, éco comme écologie.
Nickel !
Le mois de l'économie sociale et solidaire, c'est en novembre.
Pour les infos, connecte-toi sur www.lemois-ess.org.
Social et solidaire, l'économie qui sait où elle va.
Voilà, on va retrouver maintenant le responsable national, peut-être en off, vous demander quelle est votre fonction véritable, Monsieur Baron, Robert Baron.
Donc moi je suis président d'Uniformation au niveau national, donc collecteur de formation professionnelle, représentant le collège employeur, donc c'est une fonction entièrement bénévole.
Et donc vous avez fermé ce colloque? Vous avez fait les conclusions, la synthèse. Donc vous êtes passé dans les ateliers qui avaient pour sujet la gouvernance, les formations, les risques psychosociaux, on vient d'en parler. Pourquoi ces sujets sont si importants pour les employeurs de l'économie sociale?
Alors je crois effectivement que les sujets sont importants parce que, notamment si on évoque le problème de gouvernance, c'est pas naturel aujourd'hui pour quelqu'un qui est notamment dans le secteur associatif, qui est majoritaire en économie sociale. Quand on vient dans une association en qualité de président, de trésorier, de secrétaire ou de membre, l'idée première, c'est pas de créer une entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise, elle arrive derrière la conduite du projet. Et donc, à un moment donné, les dirigeants se retrouvent en situation d'employeur. Et donc, il est très important de les accompagner pour qu'ils comprennent ce rôle et qu'ils travaillent aussi sur la notion de gouvernance. Très longtemps, et on avait fait des enquêtes dans un autre cadre qu'une formation dans ce domaine-là, les employeurs de l'économie sociale cherchaient le plus possible à ne pas se faire appeler, par exemple, patron. C'est-à-dire quelque chose qui était pour eux insupportable.
C'est tabou, cette notion de
ça
rapport.
Ça l'est moins aujourd'hui, mais ça l'a été extrêmement longtemps. C'est-à-dire que, par ailleurs, ils ont souvent des vies militantes qui font que, lorsqu'ils sont dans leur activité professionnelle, ils ont un statut, et quand ils sont dans leur activité d'association, ils ont un autre statut. C'est parfois assez difficile à supporter, d'autant qu'il y a également un certain nombre de conflits. Donc c'est difficile de se retrouver en situation de conflit lorsqu'on est soi-même sur un engagement militant au service d'un projet. Donc c'est la raison pour laquelle il est fondamental de faire réfléchir sur des sujets tels que la gouvernance. Et est-ce qu'on peut essayer d'imaginer un comportement un peu différent ? Alors, ça n'a pas forcément été très abordé par les ateliers, mais je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, on demande aux entreprises, via leur branche professionnelle, de trouver des accords sur le maintien des seniors au travail, par exemple. C'est une obligation. Est-ce qu'on est suffisamment originaux dans ce domaine-là, par exemple ? Je sais qu'il y a une structure, d'ailleurs, qui est intervenue dans le colloque, qui a trouvé dans un accord d'entreprise un accord intelligence, c'est qu'ils compensent le maintien des seniors dans l'entreprise par dégager du temps pour assumer leurs responsabilités de dirigeants bénévoles. Donc voilà, par exemple, un sujet qui est intéressant à traiter, c'est est-ce qu'on peut trouver quelque chose de plus original que tout ce qu'on trouve dans tous les accords, c'est un bilan professionnel à partir de 45 ans tous les ans, un petit peu de tutorat éventuellement si on trouve des gens à tutorer. Bon, il me semble qu'on a aussi à réfléchir, compte tenu de la spécificité de nos entreprises, dont les dirigeants sont quand même, dans la quasi-totalité, des bénévoles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intéressement autre que l'envie de conduire le projet, de bien faire. Il n'y a pas de rémunération. La rémunération, elle est morale.
Voilà, une activité bénévole avec des responsabilités, une charge de travail importante. Il y a un autre point qui se pose aussi, c'est la transmission aussi de ces entreprises.
Alors là aussi, c'est une des difficultés des entreprises de l'économie sociale associative. Elles ont un atout, c'est qu'elles sont démocratiques, c'est-à-dire qu'il y a des assemblées générales. Alors soit quand on est dans le côté jeunesse, éducation populaire, quasi tous les ans, soit quand on est dans le domaine sportif tous les 4 ans, c'est-à-dire sur les Olympiades. Mais ça veut dire qu'on a des dirigeants donc qui sont élus par l'ensemble des adhérents, ce qui est déjà une spécificité de l'entreprise, c'est pas le cas de l'entreprise classique du secteur marchand. C'est pas comme ça qu'elle fonctionne au niveau de la nomination de ses dirigeants. Mais à un moment donné, le dirigeant peut décider soit d'arrêter de son mandat, il ne se représente pas, soit, dans le cadre démocratique, il est battu. Et effectivement, dans ces cas, soit d'arrêt, soit le fait d'être battu, n'encourage pas une transmission de la nature de l'entreprise au nouveau dirigeant. Et souvent, il faut recommencer tout un travail qui est à la fois de remise à niveau des nouveaux dirigeants et d'information, de formation de ces dirigeants. C'est une des difficultés. Et on voit à peu près, quand on regarde sur des fichiers, entre 20 et 30% des dirigeants sont susceptibles, hors du sport, de changer chaque année.
Alors, vous avez évoqué lors de cette synthèse également plusieurs sujets qui étaient, je dirais pas hors sujet, mais qui avaient sans doute des liens avec les sujets évoqués aujourd'hui. D'abord, vous avez dit, que l'économie sociale ne devait pas se résumer à son rôle réducteur de la réparation sociale après la crise et la crise qu'on continue de subir. Vous êtes des employeurs comme les autres.
Aujourd'hui, l'économie sociale, c'est sur le territoire national 10% de l'emploi privé dans le pays, hors fonction publique. 10%. Dans cette région, on est autour de 13% dans les statistiques. Donc ça devient quand même quelque chose d'assez considérable quand vous êtes entre 10 et 13% de la population active du secteur privé dans l'économie sociale. On ne peut pas considérer que c'est quelque chose qui est fait pour pallier un certain nombre d'insuffisances. C'est une vraie production économique. Alors, il y a à la fois la production de services, il y a la production de biens, mais il y a aussi, sur l'aspect marchand, Le fait de produire des services ou de produire des biens amène aussi à faire fructifier l'économie marchande, puisque un certain nombre de choses que nous l'achetons à l'économie classique marchande. Donc je crois qu'il faut se battre effectivement contre cette volonté qui est de nous réduire à la fois parfois à utiliser le phénomène des contrats aidés en masse pour résorber de façon un peu artificielle le chômage, ou de nous utiliser comme amortisseur lorsqu'il y a une crise importante comme il y a eu à partir de l'an dernier sur la crise financière, où on a fait appel à l'économie sociale de façon extrêmement massive pour qu'elle puisse prendre des gens en situation de précarité et de, à la fois de les insérer soit directement dans l'entreprise, soit de les préparer à une réinsertion dans le domaine classique. Ce que demande l'économie sociale, c'est son admission de plein droit dans l'économie, c'est-à-dire qu'il y ait une économie publique, une économie marchande, une économie non marchande. Et les trois me semblent complémentaires et non pas concurrentes.
Ce qui pêche aussi peut-être dans l'économie sociale, c'est le manque de visibilité, comme disait Nathalie, à long terme. L'action sociale est traversée par de grands changements, notamment au niveau de la structuration de l'État, mais aussi de la restructuration des collectivités territoriales à travers la réforme qui aura lieu en 2014. Comment s'adapter justement et fournir aux entreprises, aux associations, de la formation de qualité?
D'une part, il faut aussi que nous travaillions avec les services de l'État sur le fait d'accentuer de la formation initiale. Dans un certain nombre de métiers pratiqués dans l'économie sociale, il n'y a pas de formation initiale. Elle est prise en compte dans le cadre de la formation professionnelle continue en qualité de formation initiale. Je prends un exemple. Quelqu'un qui est aujourd'hui animateur ou directeur d'une association de jeunesse ou d'une association culturelle qui va passer un diplôme ministère de la jeunesse et des sports, par exemple. Il ne trouvera jamais dans son cursus scolaire ou universitaire une formation de cette nature-là. Donc la puissance publique n'intervient pas. Par contre, la formation professionnelle va financer l'intégralité de cette formation dite initiale. Donc il faut déjà qu'il y ait des rapprochements pour que on puisse aujourd'hui demander à la collectivité d'assurer sa mission de formation initiale, parce que c'est une mission d'État et non pas une mission de caractère privé au niveau des associations ou de l'économie sociale. Et puis il faut travailler à des priorités au niveau de la formation professionnelle par secteur d'activité ou par branche professionnelle. Aujourd'hui, on ne pourra pas tout faire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui financer l'intégralité des dispositifs dans de bonnes conditions. Donc il faut faire des choix. Est-ce que le choix, c'est d'avoir les diplômes de base qui permettent d'exercer? Est-ce que c'est d'accentuer sur la reconversion, par exemple, puisqu'on sait aussi que dans un certain nombre de métiers, alors je vais prendre l'exemple de mon voisin, quand on est dans le domaine du sport, vous n'êtes pas forcément éducateur sportif à 50 ans. Donc vous rentrez assez tôt et vous sortez très tôt de la profession. Comment on fait pour former quelqu'un à la formation initiale et le sortir à 40 ans en reconversion? Ce sont les défis qui sont les nôtres aujourd'hui.
Mon chéri.
Oui?
Il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on va faire pour Léo quand je vais retravailler.
T'inquiète pas, on a l'embarras du choix. Entre les crèches associatives, les aides à domicile, les ludothèques, les clubs de sport, etc. Ton fils de 3 ans sera bien entouré.
Mais t'es super bien renseigné, toi.
Ben oui, c'est le mois de l'économie sociale et solidaire. C'est le moment de s'informer. Le mois de l'économie sociale et solidaire, c'est en novembre. N'attendez pas pour vous renseigner. Plus d'infos au www.lemois-ess.org. Social et solidaire, l'économie qui sait où elle va.
Alors, Philippe Chauvelier, puisqu'on parle de vous, je rappelle que vous êtes donc vice-président du comité régional olympique et sportif et engagé donc dans l'économie sociale et solidaire. Sur l'atelier dont vous étiez le rapporteur, sur les formations justement, quelles formations, quelles évolutions des parcours professionnels, qu'est-ce qui a été dit et qu'est-ce qui a été dit notamment dans la salle à travers les personnes qui étaient présentes?
Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu un constat qui était donc l'accélération des changements dans l'économie sociale du fait de la restructuration de l'État et d'autre part de la future restructuration des collectivités locales. Donc ça a eu des effets. qui était notamment la restructuration des organismes, comme donc dans, aussi bien dans la question sociale que même dans le sport, où on est en train actuellement au niveau du CNESF de commencer à essayer de réfléchir quelle est l'organisation que le sport français doit avoir compte tenu de ces modifications. Ça a entraîné également, par rapport à ces changements d'organisation, c'est la fusion de structures, d'associations, ou le regroupement de coopérations. C'est les deux choses sur lesquelles chaque champ devra travailler. Il y a eu un autre changement aussi, c'est que auparavant il y avait une élaboration de projets qui entraînait un financement. Maintenant, on est dans un schéma d'appel d'offres.
C'est ça, c'est-à-dire que c'est l'État qui impose, l'État ou les collectivités territoriales qui imposent aux associations, aux structures de faire comme ci ou comme ça, alors qu'avant elles proposaient en fait.
Elles proposaient.
Elles étaient à l'initiative, elles innovaient.
Et il y avait le financement. Là maintenant, c'est un petit peu différent. Donc ces orientations, en plus de politique publique, là spécifiquement sur le champ médico-social, donc c'est un libre choix de mode de vie, donc qui va entraîner un certain nombre de modifications sur l'adaptation de l'offre de services existants. Le développement de nouveaux services qui vont automatiquement être créés et un repositionnement des métiers dans les services existants. C'est un petit peu les points qui avaient été spécifiés.
Donc là, on est un peu dans le flou, en fait. Hein. Il y avait beaucoup de questions de la part de la salle qui disaient que, finalement, l'offre de formation était là, hein, elle était disponible, mais qu'on n'aurait peut-être pas les moyens de former à hauteur...
Le problème qui se pose, c'est qu'effectivement, il y a des personnes qui ont une formation initiale. Ce rythme des métiers peut être amené à former les gens sur un autre champ que ce qu'ils avaient auparavant. Donc ces formations, il faut les trouver, et on peut avoir le problème qui a été souligné, c'est qu'il peut y avoir des problèmes de critères qui font que le financement n'est pas possible. Donc c'est un peu problématique de dire voilà, on nous oblige à changer, mais si on veut changer, on n'a pas forcément le financement pour le faire. Donc voilà un petit peu un des éléments qui est ressorti des différentes conversations qu'il y a eu avec la salle.
Voilà, ça fait partie des grands changements dont il était question lors de ce colloque, hein, puisque c'est aussi s'adapter. Et Robert Baron, qui est parti, a dit en introduction lors de sa synthèse, eh bien, la nécessité justement pour les employeurs qui sont fédérés de se regrouper périodiquement pour eh bien réfléchir à de nouvelles pistes, à de nouvelles façons de s'adapter à cette société qui change.
Oui, on parle beaucoup de professionnalisation tout au long de la vie et de formation tout au long de la vie. C'est pas une idée nouvelle. Je sais pas si vous le savez, mais ça date du 1792. C'est Condorcet qui en avait parlé le premier. Donc on ressort du chapeau un certain nombre de choses comme ça. Et donc c'est vrai que pour le faire, il faut vraiment que les structures aient les moyens de former ces gens, parce que pendant qu'ils sont formés, ils ne sont pas sur le terrain, et on sait que de plus en plus on a beaucoup de choses à faire, et aussi bien que les bénévoles que les salariés, c'est pas toujours facile de pouvoir tout concilier, et si on n'a pas ces financements, ça risque on va avoir des trous, on va avoir des problèmes liés là au droit du travail.
Voilà. Et le souci qu'on peut dire, c'est que dans l'économie sociale et solidaire, notamment dans le monde associatif, les structures sont relativement petites, et quand sur 5 personnes salariées, une part en formation, ça fait 20% d'activité en moins pendant ce temps de formation.
Voilà, c'est pour ça qu'en fait tout est fait pour les grosses structures, et tout ce qui vient d'ailleurs souvent de Paris, c'est fait pour les grosses structures. Les petites structures, elles sont tout à fait hors du champ de tout ça, parce qu'elles n'ont pas les moyens de pouvoir le réaliser. De même que pour les formations avec les OPCA, les petites structures, peu de salariés, donc peu de cotisations, donc peu de retours sur la formation.
Voilà, on aura le temps encore d'en parler beaucoup, puisque c'est spécifique hein, à cette économie-là, et c'est vrai que les changements, les mutations de notre société font que faut toujours s'adapter. Voilà.
Il doit y avoir encore beaucoup d'échanges entre tous ces employeurs de l'économie sociale et solidaire pour travailler sur tous ces chantiers que sont notamment la formation et pour une réelle reconnaissance de cette économie sociale et citoyenne.
Oui, c'est un travail de longue haleine parce que c'est pas évident. Mais je pense qu'il y a des passerelles qui peuvent exister entre l'économie sociale, comme notamment au niveau du sport, et puis l'économie capitalistique. Et c'est le cas notamment avec le CNESF qui a une convention de mécénat avec le MEDEF. Donc les financements par les collectivités territoriales vont être un petit peu réduits parce qu'elles ont moins de moyens. Et donc, si on n'a pas des moyens d'un côté, il va falloir qu'on le retrouve de l'autre. Donc, les passerelles peuvent quand même exister pour le bien de l'ensemble. Donc, faut pas être trop sectaire. Je pense qu'il y a un travail en commun à réaliser.
Les dirigeants de l'économie sociale sont des employeurs comme les autres, conscients des responsabilités et des obligations qui leur incombent. Entreprendre autrement, placer l'homme au centre du projet, ce sont les moteurs de l'économie sociale et solidaire. Dans la prochaine édition, nous évoquerons le regard des élus sur cet autre secteur de l'économie qui représente 13% des emplois en Pays de la Loire, avec Jean-Claude Boulard, président de Le Mans Métropole et maire du Mans, ainsi que Fabienne Renaud, conseillère régionale déléguée à la création d'entreprises et à l'économie sociale et solidaire. Le mois de l'économie sociale et solidaire, une émission réalisée par Emmanuel Bouger, Nathalie Lotin et Frédéric Sarello.